Le vicaire des Ardennes, onzième partie, chapitre 25. Argaud revint dans le salon de son château, où, dans ce moment, Vernier et deux pirates retirés au service de Monsieur Maxandy buvaient du punch à qui mieux mieux. « Oh oh !» s'écria le maître Forban. « Arrêtez la cuillère, ne levez pas tant les coudes, il nous faudra user du pouce-moulin ces jours-ci. » À ces paroles, les trois matelots regardèrent avec étonnement Argaud, qui vint s'asseoir à côté de Vernier. « Dis-nous donc, mon garçon !» lui cria Maxindy en le secouant brusquement. « Comment se fait-il que le jeune homme de l'auberge ne soit pas dans le champ du Seigneur ?»«
Si tu ne le sais pas, toi, qui sais tout, comment veux-tu que je le sache, mon capitaine ?»
répondit Vernier ivre.
« Ah, les brutes !» s'écria Maxandy. « Cela n'aura jamais de tenue, ils ne pourront jamais prendre. »«
Ah, que si, mon supérieur, que si nous prendrons bien, toujours !»
Ceci remplace l'effroyable juron d'Argaud.
« Écoutez-moi !»
Et en disant cela, Argaud saisit le vase d'argent et le jeta par la fenêtre.
« Le premier, qui, jusqu'à mon mariage, se grise, je le renferme à la cave dans un tonneau de vin de champagne. »
Tous regardèrent le pirate avec effroi.
« Vernier ! » s'écria-t-il en lui frappant sur l'épaule. « As-tu ton bon sens maintenant ?»«
Présent, mon capitaine !»
répondit le lieutenant en secouant les fumées du punch.
« Et vous, Scalite, Ornal et Galillet, êtes-vous à la manœuvre ?»«
À nos pièces » crièrent-ils.
« C'est bon !» dit Argaud d'un air plus radouci. « Vous allez d'abord faire nettoyer tout le château en un tour de main. Vous aurez à vous habiller d'une manière décente et même somptueuse. Toi, Scalite, tâche de ne pas fourrer tes mains à chaque instant dans tes poches. Ornal, ne te gratte pas. Et toi, Carilène, ne mets pas dans ta bouche une seule feuille de tabac. Que personne ne jure. Sans quoi, à la cave. Elle remplacera la cale. Enfin, mes enfants, quoi que cela vous soit bien difficile, prenez-moi les manières, le ton des gens de la haute société. Ne parlez pas tous ensemble, ne vous coupez pas la parole, pas de gestes, pas d'injures. Songe, Ornal, que tu es duc, Scalite, marquis, et Carilène, baron. Vernier, tu vas dire au cuisinier de se distinguer et de nous faire pour demain un dîner à trois services. Tous nos gens seront en livrée. On mettra un Suisse à la porte du château. Que les jardiniers ratissent les avenues et me nettoient le petit bois de l'entrée et tout ce qui tombe en ruine. M'entendez-vous ?
Qu'il a d'esprit, le capitaine ! dit tout bas Scalite à Ornal. Il est capable de tout.
M'entendez-vous ?
répéta Argaud.
Oui !
crièrent les quatre formans.
Eh bien donc ?
« Branle-bas !»
répondit Maxindy.
En avant !» dit Carilène. « Je veux que le feu Saint-Elme me brûle si je comprends ce qu'il veut faire. Mais en avant !»«
Eh bien !» dit Vernier quand il fut seul avec Argaud. « Que prétends-tu »«
Ce que je prétends, épouser Mélanie. Et pour cela, attendu les difficultés, il nous faut embosser le maire de la commune, afin qu'il ne soit pas trop scrupuleux sur nos titres. Et il faut à toute force lui faire croire que des chats sont des lièvres. Tu vas donc aller, de la part de monsieur le comte de Maxindy, l'inviter au somptueux repas de demain. Et comme il faut prendre toutes ses précautions, tu auras à lui faire entendre que je suis instruit qu'un séditieux caché sous le nom de Joseph doit arriver en ce pays. Et pour s'en saisir et le surveiller quand il viendra, tu placeras quelques fines mouches, Gorneau par exemple, en embuscade dans le village. Allons, va t'habiller, prends la calèche et étudie un peu le caractère de ce maire de village pour savoir en quel endroit je pourrais jeter le grappin sur lui.
Mais, Argaud, mon ami, ta tête, cette tête excellente, déménage donc ? Comment, tu vas épouser cette poulette ? Es-tu fou ?
Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux... Tu m'entends ? Ajouta-t-il en regardant Maxandy. Et ton envie satisfaite, la plante est là.
Je l'aime, Vernier, et sur ta tête, respecte-la. Si elle m'échauffe et qu'elle refuse de m'épouser, j'aurai toujours ce moyen-là. Allons, marche. »
Vernier s'en fut en murmurant et en pensant que ce mariage était le comble de la folie.
Car, se disait-il, une fois Argot marié, sa femme nous chassera tous, il deviendra sage, s'attachera à la vie, nous laissera là comme des chiens morts. Et du diable si l'on peut jouter avec lui, il est rusé, ce qu'il veut, il faut le vouloir. Si ce mariage pouvait manquer, sans que ce fût de notre faute, car il nous ferait sauter la cervelle. »
En devisant ainsi, Vernier s'habillait, la calèche s'apprêtait, et en un instant il arriva chez le maire. Ce dernier, en voyant une voiture s'arrêter à sa porte, se frotta les mains et fit place au lieutenant.
« Monsieur, n'êtes-vous pas le maire de Vence? Pourrais-je avoir l'honneur d'obtenir un instant d'audience ?»«
Monsieur, monsieur, » dit le maire, troublé par cette déférence qui flattait son orgueil. « Monsieur, asseyez-vous, entrez, faites-moi l'honneur. »
Vernier entra dans la salle où Madame Hamel était assise auprès de la femme du maître de poste qu'elle instruisait d'une partie de ses malheurs.
« Ma femme, vite un siège.
Monsieur est sans doute attaché au gouvernement. »
« Je suis, » reprit Vernier en croisant ses jambes et se balançant sur sa chaise. « Je suis l'ami intime de Monsieur le comte de Maxendy, qui, depuis un an, est propriétaire de la terre de Vence. »
À ces mots, Madame Hamel, pressant la main de l'hôtesse, prêta la plus grande attention à ce que Vernier allait dire à Monsieur Gargarou.
« Maxendy, » reprit le pirate, « regrette beaucoup que les occupations et le soin des affaires publiques l'aient jusqu'à présent retenu à Paris, car il aime beaucoup votre pays, et il compte désormais l'habiter tous les étés. Il m'envoie, monsieur le maire, vous inviter à dîner avec lui pour demain. Il désire singulièrement faire votre connaissance, et il veut, je crois, traiter avec vous de quelque affaire. Nous n'aurons presque personne, nous serons en petit comité, avec le marquis Scalite, avec le célèbre Ornal et un baron allemand. »
« Monsieur, » interrompit le maître de poste qui ne se sentait pas de joie,
« ces messieurs sont-ils quelque chose dans le gouvernement ?»«
Comment donc ?» s'écria Vernier en faisant un geste de dédain.
« Ce sont tous les amis du ministère actuel, ils sont très influents. »
« Ah !» dit Monsieur Gargarou, « j'aurai l'espoir de faire doubler ma poste si ces messieurs veulent prendre intérêt à moi.
Monsieur, j'ai d'ici à deux montagnes et trois d'ici à Septinan. Vous comprenez quelle injustice. Vous devez, » interrompit Vernier, « être fort attaché à la noble famille qui gouverne l'État, Monsieur le maire. »
« Comment, si j'y suis attaché ?» s'écria Gargarou.
« Eh bien, vous comprenez alors qu'il est très important de déjouer toutes les trames des pervers qui en veulent au bonheur des amis de la légitimité. »«
La légitimité ! Ah, ma femme, le voilà !»
s'écria le maître de poste en se frappant le front.
« La légitimité ! Il faut que j'écrive ce mot-là, je ne peux jamais m'en souvenir. Le gouvernement de la légitimité. »
Monsieur, reprit gravement Vernier, maintenant que vos bons sentiments me sont connus, je vous signale un jeune homme, nommé Joseph.
Madame Hamel frémit.
Comme un ennemi du gouvernement, un séditieux. Et il importe singulièrement au ministère de l'arrêter, car il tient les secrets d'une conjuration.
Vous me comprenez? Il doit venir dans ce village. Si vous l'arrêtez, vous deviendrez au moins sous-préfet.
« Donnez-en avis sur le champ au château et envoyez-nous le coupable. »«
Sous-préfet ! » s'écria le maire.
« Ma femme ! Ma femme ! » !»«
Tais-toi, grosse bête !» lui dit tout bas sa femme. « Tout ce qui reluit n'est pas or. »
« Au surplus, » continua Vernier, « je vous laisserai ici un jeune homme qui vous sera d'un puissant secours. Il est alerte, vif et à bon pied bon œil. »
« Ainsi, reprit-il, vous nous ferez l'honneur de venir dîner avec nous demain. »«
Comment donc, mais certainement, dit monsieur Gargarou en reconduisant le lieutenant, son chapeau à la main, et en saluant à chaque pas.
« Eh bien, ma femme, tu vois ?»
s'écria le maître de poste qui ne se tenait pas de joie.
« Notre poste est doublé, je suis sous-préfet. »«
Mais, dit-il, ce monsieur Joseph, c'est notre jeune homme d'avant-hier. »
Oh, oui, il avait bien la figure d'un conspirateur, l'air sombre.
Il demeure, s'écria-t-il en tirant de sa poche le billet laissé par le vicaire. Il demeure, il mit ses lunettes, rue de la Santé.
Le maître de poste se retira pour réfléchir à cette affaire importante.
Oh mon Dieu, comme tout cela s'embrouille!
Dit madame Hamel à madame Gargarou.
Ma pauvre tête n'y suffira pas. Qu'est-ce qu'il a dit à monsieur Maxindy que Joseph doit revenir, quand ma lettre ne fait que de partir? Que faire?
Ma pauvre dame, répondit l'hôtesse, je m'intéresse singulièrement à ce beau jeune homme que j'ai vu hier, et il est impossible que ce soit un méchant homme.
Oui, un conspirateur, mais ce sont des mensonges. C'est le fils d'un contre-amiral.
D'un contre-amiral ? S'écria la jeune femme. Écoutez, je ne suis pas d'avis que Gargarou se mêle de cette affaire. Cet homme qui est venu tout à l'heure m'a l'air de se donner pour ce qu'il n'est pas. Nous voyons tous les jours les grands seigneurs quand ils voyagent, et celui-là me paraît de fabrique. Écoutez, il faut que vous alliez à la poste voisine, du côté de Paris, que là, vous attendiez votre jeune homme, et vous l'avertirez de se déguiser en paysan. Il arrivera ici à pied, et je dirai que c'est un de mes cousins. »
Comme elle achevait ces mots, une vieille femme entra dans l'auberge et s'avança vers madame Gargarou.
« Ah, madame, dit-elle, je venons vous payer ce que je vous devons. Allez, ce jeune homme qui a visité ma chaumière a joliment mis du beurre sur mon pain. »
« Quel jeune homme ? » demanda madame Hamel.
« Un grand, beau, le fils de cette jeune dame qui... Vous savez l'histoire ?» dit la femme.
« Oui, dit l'hôtesse.
« Eh bien ? » ?»«
Eh bien, il m'a donné une lettre à porter à la marquise de Raucourt, à l'autre bout de la forêt. On m'a fait entrer dans le plus beau château.
Dans des appartements ? Dame, c'est un pair de France. Aussitôt qu'elle a lu ma lettre, voilà-t-il pas qu'elle a couru à son secrétaire et qu'elle m'a baillé un sac de 1200 francs et qu'elle a fait plus de cris de joie. Elle a dit qu'elle viendrait ici.
« La marquise de Raucourt ? » s'écria l'hôtesse.
« Allons, allons, je vais dire à Gargarou qu'il aille prudemment dans cette affaire-là. Ce jeune homme. Allez, ma bonne dame, dit-elle à madame Hamel, courez à l'autre poste et guettez-le. »
La pauvre madame Hamel se mit en route malgré le mauvais temps et chemina vers Septinan en s'éloignant à regret de l'endroit où était Mélanie.
« Votre mari n'est-il pas le berger de mon frère ? » demanda l'hôtesse à la vieille femme.
« Oui, madame, à votre service. »«
Eh bien, il faudra qu'il me fasse le plaisir de montrer le métier à l'un de mes cousins et qu'il garde le secret sur ce que je lui dirai. »
La vieille femme s'en alla, joyeuse, racontait dans tout le village l'heureux événement qui la tirait de la misère. L'hôtesse eut une grande querelle avec son mari sur la conduite qu'il avait à tenir avec M. Maxindy. Mais l'hôte, gonflé d'ambition, défendit à sa femme de se mêler des « affaires du gouvernement ». Madame Gargarou résolut alors de servir secrètement la cause de M. Joseph, et le maire se dévoua, par contradiction, à la cause de M. Maxindy. Le lendemain, le maître de poste se para de son mieux et se dirigea vers le château où gémissait la tendre Mélanie. Un grand laquais, vêtu d'une livrée splendide, l'annonça dans le salon par le titre de « Monsieur le maire de Vence-la-Pavée ». Argo courut au-devant de lui, et successivement il présenta ses quatre compagnons. Le maître de poste fut ébloui en se trouvant dans la compagnie d'aussi nobles personnages, et l'on ne tarda pas à se mettre à table. Monsieur Gargarou ne revint pas de son étonnement à l'aspect du luxe déployé sur cette table couverte d'argenterie, de cristaux et de vin fin, dont on changea fréquemment. «
Monsieur le maire, dit Argo,
vous ne vous douteriez pas de la raison pour laquelle je vous ai prié de passer chez moi ?»«
Non, monsieur, » répondit respectueusement le maire.
« C'est pour mon mariage, » continua négligemment le pirate. « Comme j'ai résolu d'habiter souvent ce village et de me faire bien venir de ses habitants, je n'ai pas voulu me marier à Paris. À propos, mon cher Gargarou, l'on m'a dit que vous désiriez voir doubler votre poste. »
« Ah, monsieur !» s'écria l'aubergiste, « c'est une indignité qu'on ne me l'ait pas doublé depuis longtemps. Vous qui avez voyagé sur cette route, vous savez combien elle est rude pour moi des deux côtés. »
« On vous la doublera. Ne faut-il pas une ordonnance ? Une loi ?»«
Une loi, je crois, monsieur. »«
Ah, une loi. Une petite loi, » dit Maxandy en regardant ses compagnons.
« Nous avons la majorité, » dit Vernier, « et une loi de plus, c'est une bagatelle. »«
Marquis, » ajouta Argot en parlant à Vernier, « cela te regarde, car tu es l'ami du ministre de l'Intérieur. »«
Monsieur le maire, » reprit-il en frappant sur le bras du maire de poste, « je voudrais que ce mariage se fît très promptement. » Et l'un de mes amis doit m'envoyer une ordonnance du ministère de la Justice qui me dispensera de la seconde publication. Ainsi, vous pouvez commencer et préparer la première. Je vous donnerai toutes les pièces, et la semaine prochaine, nous danserons ici.
« Mais votre future ?» demanda le maître de poste.
« Elle est ici, » reprit Argot. « Mais je n'ai pas voulu la faire assister à un repas où elle se serait trouvée seule au milieu de 6 hommes. » « Vous sentez qu'une jeune fille, ma cousine dont je suis le protecteur... »«
Est-ce que ce serait la jeune femme que l'on a amenée l'autre jour ?» demanda le maître de poste.
« On la disait folle. »«
Folle !» dit Argot. « Elle l'est un peu. C'est-à-dire qu'elle aime un jeune libéral assez mauvais sujet qui est parvenu à lui tourner la tête. Ces gens-là mettent le désordre dans les familles comme dans l'État. » Ma jeune cousine m'épouse donc avec un peu de répugnance, mais elle ne sera pas mariée depuis 15 jours que cette fantaisie se dissipera. Je vous dis cela parce que nous sommes bons amis et que vous la verrez un peu chagrine, peut-être.
Mais, reprit M. Gargarou, a-t-elle son père et sa mère, car...
Orpheline, dit Vernier. « Allez, monsieur Gargarou, le présent de noces de monsieur le comte sera de doubler votre poste. »«
Monsieur le maire, » reprit Argot, « je vais faire venir un avocat pour notre contrat de mariage que vous signerez, j'espère. Il rédigera les actes, ce qui pourrait vous embarrasser un peu. Nous ne serons pas dérangés et vous n'aurez qu'à signer. »«
Je n'aurai qu'à signer ?» répéta le maire un peu étourdi par le vin. « Et j'aurai ma poste doublée ?» Car vous qui êtes dans le gouvernement...
Le gouvernement de l'État, continua Ornal.
Et de la légitimité, dit Vernier.
Oui, reprit le maître de poste, la légitimité du gouvernement, de l'État du royaume. J'y suis attaché, et nul ne peut dire que je ne suis pas bon français et honnête homme.
Argot, voyant à quel homme il avait affaire, jugea qu'il n'éprouverait aucune opposition de sa part dans le dessein qu'il méditait. Il lui versa si souvent rasade, et ses compagnons lui donnèrent de si bons exemples, que M. Gargarou et les 4 matelots devinrent complètement ivres. Argot fit promettre tout ce qu'il voulut au maire, au nom du gouvernement et de la sûreté du trône. Puis il invita le maire à venir dîner dans 3 jours, parce qu'alors l'avocat prétendu serait arrivé et rédigerait l'acte de mariage, pour lequel Argot devait faire demander toutes les pièces nécessaires en fabriquant les plus essentielles. La pauvre Mélanie passa ses 3 jours dans une mortelle tristesse. Ses fenêtres donnaient sur la lisière de la forêt, et les arbres dépouillés de feuilles, la campagne déserte, la nature en deuil, formait un spectacle en harmonie avec les sombres pensées qui l'assaillaient. La jeune fille pâlissait chaque jour et se désolait de ne plus voir Madame Hamel. Elle allait souvent à sa fenêtre pour contempler la campagne déserte et revenait s'asseoir sur son fauteuil,
en pensant toujours à Joseph et ne désirant plus son arrivée dans les lieux où M. Max Andy était tout puissant, puisque ce farouche ravisseur avait juré sa mort. Elle sentait que si Joseph ne tombait pas au pouvoir d'Argo, ce dernier ne pourrait pas lui présenter la cruelle alternative de la mort de son frère ou de son mariage. Pendant que ces choses se passaient avant cela pavé, Madame Hamel s'était rendue à pied à Septinan, et cette pauvre femme, que ces tristes événements avaient fait sortir de son caractère, trouvait dans sa tendresse et dans son dévouement une activité de corps et d'esprit qui semblait au-dessus de ses forces. Elle se tint sur la route de Paris tout le jour, et pendant la nuit, elle veillait en écoutant le moindre bruit et arrêtait chaque voiture pour voir si Joseph n'y était pas. Enfin, sur la fin du second jour, un courrier arrive au grand galop à la poste et demande 4 chevaux qui seront payés double. On s'empresse, Madame Hamel se tient sur la porte de l'écurie, les pieds dans la boue et en souliers de satin presque usés. Au bout de quelques minutes, elle aperçoit Joseph.
« Mon fils ! » s'écria-t-elle, « ne va pas plus loin !»«
Quoi ? C'est vous, ma mère ? Mélanie ? Mélanie, où est-elle ? C'était donc elle !
Descends et reste ici. Finette, dépêchez !»
Le vicaire, pâle, abattu, presse Madame Hamel dans ses bras et l'embrasse en pleurant.
« Mélanie, où est-elle ? » ?»«
Mon fils, » dit la vieille femme à voix basse, « sortons d'ici, laisse-y ta voiture et viens à l'écart. Tu as affaire à un homme rusé, habile, puissant, et l'on ne saurait trop prendre de précautions. Viens, Finette. »
Oh ! S'écria le vicaire. « Je vais requérir la force armée, ou des gens que j'achèterai s'il le faut, et j'enlèverai Mélanie de vive force. Je périrai plutôt. »«
Il va tout perdre !» s'écria Madame Hamel.
« Mon ami, écoute-moi. Au premier pas que tu vas faire dans ce pays-ci, l'on t'arrêtera. Pendant que tu seras en prison, sauveras-tu Mélanie, que l'on peut emmener si l'on sait que tu es ici ?»«
Je la suivrai !» s'écria le vicaire.
« Non, mon ami, il faut que tu te déguises ici en paysan et Finette en paysanne. Il faut que Finette passe pour ta femme. Alors, sous ce costume, et lorsque tu seras à l'abri des desseins des méchants, tu pourras chercher les moyens de tirer Mélanie de sa prison, du château de M. Max Andy. »«
Largo ? Ma mère, c'est celui qui a soulevé l'équipage de notre vaisseau. »
Madame Hamel resta muette de stupeur. « Mon fils, sauvons-la ! Argo est capable de la tuer !»
Alors le vicaire, admirant la justesse des avis de Madame Hamel, retourna à la poste et paya les chevaux, en priant le maître de poste de Septinan de garder sa voiture et de la tenir toujours prête à partir avec de bons chevaux. Puis il revint à l'auberge de Madame Hamel, il quitta ses habits, colla ses cheveux sur son front comme le font les paysans, et se revêtit du costume que la soigneuse femme avait acheté d'avance. Finette emprunta le déshabillé d'une fille de l'auberge, et Madame Hamel ayant aussi pris un costume de campagne, ils s'acheminèrent tous trois du côté de Vence-la-Pavé. Durant le chemin, Madame Hamel mit le vicaire au courant de ce qui s'était passé. Heureusement pour eux, le maître de poste de Vence, M. Gargarou, ne se trouva pas dans la salle de son auberge lorsque Joseph s'y présenta, car en voyant ce jeune cousin de sa femme avec Madame Hamel, il n'aurait pas manqué de concevoir de graves soupçons, puisque Madame Hamel avait avoué devant lui connaître M. Joseph.
« Vous ne pouvez pas rester ici, mon cousin !» dit finement la jolie hôtesse en parcourant des yeux le jeune vicaire. « Vous y seriez trop en danger !» car M. Max Andy a tellement fanatisé mon mari qu'il ne rêve que votre arrestation. Si vous voulez réussir dans votre entreprise, rendez-vous à la maison que vous avez visitée il y a 4 jours, et vous y trouverez 2 braves gens qui vous sont dévoués. Vous prendrez un manteau de berger et vous tournerez autour du château. Et puisque vous êtes amoureux, l'amour vous conseillera, et Dieu vous sera en aide. »
Le vicaire laissa Finette et courut à la chaumière. Le mari et la femme se chauffaient à un feu de tourbe lorsque leur porte s'ouvrit, ils se retournèrent, et la sœur de Marie reconnut le vicaire.
« Mes amis, s'écria-t-il, vous devez me cacher. La femme de l'auberge vous en a sans doute prévenu. Si elle ne l'a pas fait, songez à garder le silence sur moi, et je paierai votre discrétion. Je suis pour tout le monde un pauvre paysan, et nous allons conduire ensemble les troupeaux. Allons, mon ami, prenons nos manteaux et sortons.
Un instant, mon bon monsieur, les moutons ne sortent pas maintenant, ils sont à la ferme.
Allez donc les chercher, car je meurs d'impatience. »
Et le vicaire, revêtant l'humble manteau du berger, sortit précipitamment et se mit à la porte en regardant le château qui renfermait sa bien-aimée.
En ce moment, Mélanie était à la fenêtre. Elle contemplait la campagne d'un œil rempli de larmes, sans pouvoir reconnaître à travers le nuage de ses pensées si elle désirait ou ne désirait pas Joseph. Elle voit un troupeau de moutons dirigé par deux hommes s'avancer vers les fossés du château.
« Qu'ils sont heureux !» se disait-elle. « Ils sont libres !»
Le troupeau s'approche de plus en plus, car les chiens, aiguillonnés par la voix de leur maître, mordent les moutons pour les faire avancer plus vite. Cette singularité frappa Mélanie. Elle ouvrit sa fenêtre, et posant ses bras sur la pierre froide, elle s'accouda pour deviner le motif de cette précipitation du berger. Un des bergers s'assied sur une pierre et l'autre l'imite. Tout à coup, Mélanie aperçoit un des bergers s'avancer et regarder dans la campagne. Elle tressaille involontairement en croyant reconnaître la marche de Joseph. Son cœur bat avec violence, elle respire à peine. En ce moment, Joseph, chantant un air connu de tous deux, acheva de se dévoiler. Mélanie ne voit plus rien, elle se sent défaillir, mais la voix de Joseph la soutient. Ah, rien ne peut dépeindre le charme d'un tel moment. Que ceux qui ont aimé se l'imaginent. Après 2 ans se revoir, et se revoir séparés par des dangers affreux. Mélanie, l'imprudente Mélanie, agita son mouchoir pour dire à son frère qu'elle entendait sa voix. Le vicaire, tout entier à cette douce contemplation, heureux, oubliant les lieux et les circonstances, agita le sien.
« Retirons-nous, monsieur, » dit le berger. « Voici un homme qui accourt. Venez de ce côté, si vous m'en croyez. »
Cet homme était le matelot chargé de surveiller la partie de la campagne sur laquelle les fenêtres de Mélanie avaient leur vue. Il vint rôder autour des deux bergers, et voyant les mains de Joseph,
« Il me semble, mon ami, » dit-il, « que vous avez les mains bien blanches pour un homme de la campagne. »«
Qu'est-ce que cela vous fait ?» demanda le berger.
« Je ne te parle pas à toi. »«
Mais moi, je te parle, » dit le berger.
« L'ami, » continua le matelot après avoir toisé les deux bergers, « toi qui as une chemise de batiste pour garder les troupeaux, pourrais-tu me dire que font ces moutons dans un endroit où il n'y a pas un brin d'herbe ?»«
Encore un coup, qu'est-ce que cela te fait ?» s'écria le berger.
« Ce que cela me fait, tu vas le voir. »
Et le brigand siffla 3 coups.
« Vous êtes sur nos terres et vous n'avez pas le droit d'y mener vos moutons, » s'écria-t-il.
« Ah, je ne sais pas mon métier peut-être, » répondit le berger.
Comme il finissait ses paroles, 3 grands laquais arrivèrent en courant et le matelot leur cria de s'emparer de Joseph. Il s'engagea un combat et les chiens donnèrent un moment l'avantage au berger. Alors le vicaire, saisissant cet instant pendant lequel il avait réussi à se délivrer des 2 hommes qu'il avait assaillis, il prit sa course en se dirigeant vers la forêt avec la rapidité d'une flèche. Les laquais, abandonnant le berger, se mirent à la poursuite de Joseph. Mais le gardeur de troupeau ameuta ses chiens après ses brigands. Ils furent arrêtés dans leur course et forcés de se défendre des morsures. Au reste, Joseph, élevé dans les forêts et dans les montagnes, était beaucoup trop agile pour qu'aucun de ceux qui le poursuivaient pût l'approcher. Mélanie, que ce combat avait rendue tremblante comme les feuilles qui restaient encore aux arbres, vit avec joie son frère disparaître dans la forêt. Sur le champ, Argo fut instruit de la présence de son rival. Il redoubla les gardes autour du château et mit ses gens en campagne, en s'applaudissant de ce que Joseph était venu s'offrir à ses coups. Chapitre 26. La nuit arrivait à grands pas. Et le vicaire courait toujours avec la même vitesse à travers l'immense forêt dans laquelle il était entré. Au bout de 2 heures, il commença à sentir la fatigue et le besoin. Alors il marcha plus lentement,
en se dirigeant avec précaution en ligne droite pour arriver à une des extrémités de la forêt. En entrant dans une route plus fréquentée que celle qu'il venait de traverser et dont les ornières assez profondes indiquaient le passage des voitures, il entendit au loin le mouvement d'une charrette, le claquement d'un fouet et le sifflement du conducteur. Il courut alors vers l'endroit d'où partait ce bruit, afin de savoir en quelle partie de la forêt le hasard l'avait conduit. « Mon brave homme, » dit-il à un paysan couvert d'une blouse et qui était d'une taille énorme, « pourriez-vous me dire où je suis ?»«
À une demi-lieue d'Aunay, » répondit le grand charretier.
« Mais, » reprit le vicaire, « votre voix ne m'est pas inconnue. N'êtes-vous pas Jacques Cachel, le bûcheron charbonnier qui demeure sur la hauteur ?»«
Ah, oh, c'est Monsieur Joseph !» s'écria Cachel. « Ah, monsieur le vicaire, je n'ai pas pu vous témoigner ma reconnaissance pour le service que vous m'avez rendu. Usez de moi corps et âme. Je vous dois ma petite fortune, car c'est moi qui fournis le bois et le charbon au château de Vence, et c'est une pratique que j'aurais perdue si j'avais été en prison. Monseigneur m'a obtenu ma grâce, et vos bontés, celles de madame la marquise, m'ont mis sur le pinacle. Corps, âme et bien, je suis à vous, monsieur Joseph. » « Mais par quelle aventure vous trouvez-vous à cette heure dans cette forêt, tandis que depuis 8 jours, tout honné est sans dessus-dessous? Tout le monde vous pleure. Monsieur le marquis est parti pour Paris pour aller à votre recherche. On dit que vous êtes un grand seigneur. Monsieur le Sec, Monsieur Gauss, Mademoiselle Marguerite ne cessent de parler de vous et de votre histoire. C'est ma femme qui m'a tout conté, ma pauvre femme. » Ah, comme votre retour va étonner! Monseigneur l'évêque est venu vous chercher ici, et il y a des gens qui disent que le frère de l'évêque, un contre-amiral, est mort le soir de son retour. Il y a des manigances d'enfer!
Monsieur de Saint-André est mort? S'écria Joseph, qui n'avait pas dit un mot jusque-là, par une bien bonne raison. En effet, aussitôt que le bûcheron avait parlé de l'accès qu'il avait au château d'Argot, le vicaire était tombé dans une méditation dont il ne fut tiré que par la nouvelle de la mort de Monsieur de Saint-André.
« Jacques, reprit-il, puis-je compter sur votre dévouement et sur votre discrétion, dont la volubilité de votre langue ne me donne guère bonne opinion ?»«
Monsieur, répondit Jacques Cachel, comptez sur moi comme sur vous-même. Je vous prouverai ma discrétion et mon dévouement en temps et lieu. » « Marchons donc vite à ta chaumière, parce que j'ai faim et que je suis fatigué. »
Cachel donna un coup de fouet à ses chevaux, et en un quart d'heure, ils aperçurent la lumière qui brillait par la lucarne de la chaumière déserte.
« Allons, femme, ouvre, c'est moi !»«
Entrez, monsieur, je vais aller mettre mes chevaux à l'écurie, que grâce à madame la marquise, nous avons fait arranger. »
Chut ! S'écria le vicaire en arrêtant l'exclamation d'étonnement que la femme de Cachel allait pousser. « Chut, ma bonne mère, et attendez votre mari. J'ai à vous parler à tous deux. »
Le bûcheron étant rentré, le vicaire s'assit entre le mari et la femme. On se rapprocha du feu, que Cachel ranima, et Monsieur Joseph, s'assurant du sommeil des enfants, parla en ces termes.
« Mes chers amis, songez qu'avant toute chose, il faut me promettre solennellement de ne pas ouvrir la bouche sur ma présence en ces lieux. C'est le point le plus important. Maintenant, Cachel, je vous promets 2000 francs si nous parvenons à tirer du château une jeune fille que M. Maxandy y retient. Pour cela, il faut du courage, de l'adresse et de la discrétion, de l'activité et un dévouement sans bornes. La première chose à faire, ce sera, Cachel, d'aller tous les jours au château pour savoir ce qui s'y passe et de m'en instruire.
« Justement, monsieur, » interrompit Cachel, « demain j'y porte du charbon et après-demain 6 voitures de bois. J'y suis connu du concierge et du cuisinier en chef. »
« Bon, bon, Cachel, » s'écria le vicaire transporté de joie. « Nous allons rêver au moyen de m'y introduire, car il faut que je voie Mélanie. Demain, au lever du soleil, vous irez acheter un cheval réputé bon coureur pour le tenir prêt à tout événement.
Et il y aurait celui de Monsieur de Raucourt, si, par Marie, nous pouvions l'emprunter.
Connaissez-vous, demanda le vicaire, la distribution intérieure du château ?
Monsieur, répondit le charbonnier, il y a deux ailes et une façade. Le grand escalier est dans la jonction de l'aile gauche avec le corps de logis principal du château. Et cet escalier conduit dans une immense galerie où sont les appartements de cette aile gauche, dans laquelle est cette jeune dame. Quant aux grands appartements, ils sont au rez-de-chaussée de la grande façade.
Ainsi, dit le vicaire, pour aller chez Mélanie, il faut traverser la cour, aller dans le vestibule où commence le grand escalier et... sa chambre donne sur la campagne. Eh bien, Cachel, dites-moi maintenant où est la cuisine où vous apportez sans doute votre charbon.
Les cuisines, monsieur, sont justement dans le rez-de-chaussée de cette aile gauche, et la porte n'est pas loin du perron.
Cachel, s'écria le vicaire, demain je me mettrai dans un de vos sacs de charbon, et je me hasarderai dans ce labyrinthe, n'y allant qu'à la nuit tombante. Oh bonheur, je verrai Mélanie.
Le vicaire fit un frugal repas que sa faim lui fit trouver excellent, et il se coucha dans son manteau, en recommandant encore la discrétion au mari et à la femme. Malgré sa fatigue, le vicaire ne put dormir, et toute la nuit Mélanie fut l'objet de ses pensées. La mort de Monsieur de Saint-André lui donnait un espoir qu'il osait à peine s'avouer. Emporté par les dangers que courait Mélanie, emporté par la violence de sa passion, il remettait à un autre temps d'examiner les graves questions que ferait naître son désir de revoir Mélanie. Il ne voyait qu'une chose, le bonheur de sa sœur, sa félicité et son amour si bien partagé. Le lendemain matin, la femme de Cachel se mit à coudre un sac assez grand pour contenir et cacher le vicaire. Et lorsque tout fut préparé, Joseph se mit en route avec le charbonnier, en prenant ses mesures de manière à n'arriver au château de Vence que vers les 5 ou 6 heures du soir. Lorsqu'ils furent sur le point de quitter la forêt, Joseph, montant sur la charrette, se coula dans le sac noir qui lui était destiné, et le charbonnier, sifflant et faisant claquer son fouet, se dirigea vers le château. Quand il fut à la porte de la dernière grille, le matelot chargé de l'inspection de cette partie s'avança en priant « Qui est-ce ?» car il faisait assez nuit. « C'est moi !» s'écria Caché. « Je n'ai pas pu venir plus tôt, car la pluie a gâté les chemins. » « Ah bien, vous allez être joliment reçu du cuisinier, maître Jacques Cachel. Il y a un grand dîner, et il jure après vous depuis 1 heure. Il vient d'envoyer un gars de sauce, voir si vous n'arrivez pas. »«
Ne m'arrêtez donc pas. »«
Ah, c'est vrai, vous êtes de la maison, passez. »« Mais voyez-vous, les cartes se brouillent. Hier, il y a eu engagement avec l'ennemi, et l'on est à sa poursuite. On redouble de surveillance. » Ce n'est pas peu qu'une fille a gardé lorsqu'elle a un amant qui rôde. Allez !» Et Jacques d'enfiler l'avenue, de passer la cour en criant gare et jurant après les chemins. Il conduisit sa voiture juste en face de la porte de la cuisine.
« Arriverez-vous ! » s'écria le chef en colère. « Vous perdrez la pratique, monsieur Cachel !»
Et le chef, faisant signe à un marmiton, l'aide de camp du cuisinier, se mit en devoir de monter sur la charrette pour jeter les sacs.
« Hé, Gatsos !» s'écria le charbonnier, effrayé, et jetant le jeune homme par terre en le saisissant par le cou. « Je ne touche pas à tes plats, ne va pas casser mon charbon !»
Aussitôt Cachel atteignit un sac et le porta au milieu de la cuisine.
« Parbleu, monsieur Lénagile, vous n'avez guère l'idée de ce que c'est qu'un chemin. Mes chevaux ont manqué périr dans un bourbier. »
Cachel retourna à sa voiture et rangea plusieurs sacs le long du mur, en mettant Joseph contre l'escalier.
« Sortez !» lui dit-il. « Je vais amuser le chef pendant une bonne demi-heure. »
Joseph sort de son sac, s'élance dans l'antichambre, et il entend les voix bruyantes des convives. Car c'était justement le jour où le maire dînait pour la seconde fois chez Monsieur Maxandy. Le vicaire frémit involontairement. Il monte rapidement les escaliers et arrive dans cette sombre galerie où il présume que la chambre de Mélanie doit se trouver. Il parcourt la galerie et il voit de loin une lueur s'échapper sur le carreau par l'intervalle qu'il y a toujours entre une porte et les dalles du plancher. Il se hasarde à ouvrir la porte. Il entre. Mélanie,
assise sur un fauteuil, lisait sa lettre. Elle lève la tête, regarde dans l'ombre, elle jette un cri et tombe comme morte en reconnaissant le visage du vicaire. Ce dernier s'élance et les plus doux baisers la firent revenir à la vie. Ces baisers étaient l'expression d'une volupté encore inconnue à Mélanie. Elle relève sa pesante paupière et s'écrie « Enfin, c'est toi !»« Mélanie, je n'ai qu'un instant, un quart d'heure, et je cours les plus grands dangers. Tâche que nous ne soyons pas surpris. Tu m'ôtes toutes mes idées par ta présence. Je suis folle, que faire ?» En parlant ainsi, elle se mit à réfléchir. Son joli front se plissa, puis, souriant à son frère, elle s'écria « J'ai trouvé, puisqu'il s'agit de ta sûreté. » Alors elle prit sur la table où étaient les restes de son dîner les fragiles débris de quelques noix. Elle sortit rapidement et courut les semer dans la galerie. Puis, accourant avec légèreté, elle ferma la porte au verrou et dit « Joseph, nous sommes tranquilles maintenant !» Et elle courut se poser sur les genoux de son frère. « Mélanie, dit-il avec un tremblement presque convulsif, comment m'aimes-tu ? Joseph, comme par le passé, et ton aspect vient ranimer l'ardeur qui me dévore sans cesse. » Et elle pencha sa belle tête sur l'épaule du vicaire. « Toujours ton même sourire, s'écria-t-il. « Toujours, répondit-elle avec mélancolie. Cruel, comme tu m'as quitté. J'espère que si tu me délivres, nous ne nous séparerons plus. » « Non, dit Joseph avec énergie. » Il ne savait comment instruire Mélanie du mystère de sa naissance. Cette nouvelle ne devait être annoncée qu'avec bien des ménagements. « Que j'aime cette promesse. Elle vient, continua Mélanie. Elle vient encore à temps pour m'empêcher de mourir. Oui, mon frère, vivons ensemble. Va, nous souffrirons moins de nos combats que de l'absence. Laisse-moi t'embrasser. » Le vicaire embrassa son ami avec une effusion qui surprit Mélanie. « Joseph, dit-elle, qu'est-ce que cela veut dire ? Je voudrais, Mélanie, t'en instruire sans prononcer une parole. Ah, je crains ta joie. Que veux-tu dire ? » Et elle regarda le visage de Joseph avec une inquiétude qui n'avait rien de pénible. « Mon frère !»« Mélanie, répondit le vicaire en appuyant sur ce mot. « Mon frère, pourquoi ne me nommes-tu pas du doux nom de sœur ? Depuis que tu es entrée, tu ne l'as pas prononcé. Mais qu'est-ce que cela me fait ? S'écria-t-elle comme en délire. « Ne te vois-je pas ? Ne suis-je plus ta seule amie ? Ah, ne cherchons pas par de mystérieuses paroles à comprimer l'élan de notre joie. Eh bien oui, je t'aime toujours avec ardeur. Si c'est là ce que me demandent tes yeux, dont l'expression m'étonne et me ravit, oui. Je t'aime avec cette ardeur invincible qui me possédera jusqu'à mon dernier jour. Mais oublions tout cela, je t'en prie, gardons cet instant pur et brillant, qu'au milieu d'une vie de sacrifice, il se trouve une fleur. Tu ne dis rien, mon frère, et tes yeux me dévorent. Ah oui, ils parlent assez. Abaisse ta paupière et tes longs cils, je veux les couvrir de baisers. Mélanie, tu me revois, dit lentement le vicaire. « Mais mon amour, que veux-tu dire ? » Mélanie, lorsque je t'ai quittée, je t'ai juré de ne plus revenir que lorsque nous pourrions nous revoir sans crime. « Sans crime ? Quelle pensée ! Joseph, mon frère !»« Ne m'appelle plus ton frère. »« Ne le serais-tu pas ? » dit-elle d'une voix languissante, et toutes ses couleurs abandonnèrent ses joues. Elle pâlit, elle appuya sa tête sur la poitrine du vicaire. Elle y perdit le sentiment du bonheur. Les larmes de Joseph coulèrent sur ce charmant visage. « Voilà ce que je redoutais » s'écria-t-il. Et relevant Mélanie, il tâcha de la réchauffer par les baisers les plus ardents. « Mélanie, reviens !» Et il essaya de la relever. « Mon amie, dit-elle en ouvrant à peine ses beaux yeux bleus, « je me meurs, j'en mourrai !» Mélanie, tu es au pouvoir d'Argo. L'argot ? S'écria-t-elle en se levant de cette précipitation que donne l'indignation. De ce pirate qui a déporté notre père ? Mélanie, reprit le vicaire en l'asseyant sur ses genoux, ne crie pas si haut. Écoute-moi. Monsieur de Saint-André est mort. Il n'était point mon père. Et ta mère n'était point la mienne.
ton amour est innocent. »
Innocent ? Mon frère, oui, mon frère, car je veux toujours te donner ce doux nom. Innocent ? Oh, laisse-moi t'embrasser comme ce jour où tu m'as repoussé.
Et quoi ? S'écria-t-elle.
Joseph, tu es triste, qu'as-tu donc ?
Dit-elle en passant sa main dans les cheveux du prêtre avec un ravissement divin.
Mélanie, dit-il avec chagrin pour lui donner le change sur la cause de sa tristesse.
Comment puis-je sourire en te voyant dans ce château sans avoir trouvé le moyen de t'en tirer ?
C'est vrai, dit-elle, mais l'amour nous éclairera.
Elle lui jeta un des plus gracieux sourires. À ces mots, les pas rapides d'un homme firent retentir dans la galerie le bruit des coquilles de noix qui s'écrasaient.
« C'est Argo !» s'écria Mélanie. « Nous sommes perdus. Où te cacher ?»
La stupeur saisit le vicaire.
« Tuons-le » s'écria-t-il. « Non, non, cache-toi dans mon lit. »«
Mademoiselle, ouvrez-moi !» dit Argo d'une voix tonnante. Le vicaire se mit entre deux matelas. Mélanie rétablit le désordre du lit et se disposa à aller ouvrir. Pour mettre au fait de ce nouvel incident, il faut que l'on se transporte, un peu avant l'arrivée du pirate, dans la salle à manger, dont la porte donnait sur le vestibule où commençait l'escalier. Lorsque le vicaire le monta si rapidement, les convives, au fort du repas, s'occupaient à mettre M. Gargarou entre deux vins.
« Allons, monsieur le maire, » disait Argo. « C'est hier que vous avez fait la première publication. Sous 4 jours, vous nous mariez. Buvez à cette fête-là. »«
Vous finirez par me faire voir ma poste double, » dit Gargarou en riant de ce gros rire franc qui distingue les gens de la campagne.
« Vous voyez ici un avocat qui vous évitera la peine de faire l'acte. Il va rédiger le contrat de mariage. »
Il est habile.
Est-il du gouvernement ? Demanda le maire en le regardant.
Sans doute. Faut avouer, monsieur le comte, que vous êtes un fameux bon vivant, et que ceux qui vous entourent n'engendrent de mélancolie. Je m'étonne qu'avec une existence comme la vôtre, vous cherchiez le mal comme avec la main.
Que voulez-vous dire ? Demanda Argo en fixant le maire.
« Eh oui, répondit M. Gargarou, le mariage n'est-il pas... »«
Oh !» interrompit le pirate, « l'amour est une terrible chose. »«
Oui, dit le maître de poste, surtout chez les femmes, car lorsque la mienne... »«
Elle est jolie, dit Vernier. »«
Que trop, répondit mélancoliquement le maire, car je vous réponds... « Non, non, je n'en réponds pas. »
Tous les convives se mirent à rire et à louanger l'esprit de Gargarou en lui disant qu'il éclipserait bien du monde à Paris et qu'il n'était pas fait pour être maître de poste.
« Oh oui, dit-il, je devrais fourrager dans le gouvernement. »«
Allons, répondit Argo, vous entendez la politique. »«
Oh, ça, monsieur le comte !» continua le maire en frappant sur le ventre d'Argo.
« N'interrompez pas le cours de mes idées. Nous sommes au dessert, et vous dites que l'amour vous tient au cœur. Et il faut donc que cette jeune fille soit bien belle. »«
Divine !» s'écria le pirate.
« Divine ! Est-ce qu'il serait pas possible de la voir ?»«
Non, » dit Argo.
« Ce n'est pas, dit Vernier, que monsieur le comte n'en aurait pas envie, c'est qu'il ne peut pas, » ajouta le lieutenant, qui ne demandait pas mieux que de brouiller son capitaine avec Mélanie pour que le mariage manquât.
« Je ne le peux pas, double coquin !»«
Cela se gâte, » dit le maire, « les injures sont prohibées. »«
Si je le voulais, à l'instant même elle descendrait. » « Mais vous êtes ivre. »«
Non !»
crièrent-ils ensemble.
« C'est une mauvaise excuse. »«
Mon ami, » dit le maire, « si elle ne vient pas, nous croirons qu'elle vous mène par le bout du nez. Et c'est un signe de malheur. Du nez au front. »«
Silence, monsieur Gargarou. Je coupe la gorge à ceux qui médisent de ma fiancée. »«
Cela se gâte, » dit tout bas le maire.
Ah, bah, amenez-la, cette jeunesse, on ne vous la mangera pas. »
Argot, craignant que le maire ne se fâchât et voyant qu'il avait besoin de lui, pressé d'ailleurs par les plaisanteries dont ses complices l'assaillirent en ce moment, se leva et leur dit
« Je vais la chercher, mais, mordieu, si quelqu'un se lâche et n'est pas respectueux, il aura affaire à moi. »
« Ah, dit le maire, nous sommes tous dans le gouvernement et la légitimité, de manière qu'il n'y a rien à craindre. » Argot sortit et monta chercher Mélanie.
« Ma reine, lui dit-il, qu'avez-vous, vous êtes tremblante.
C'est le vent qui souffle, le froid, la solitude.
En ce cas, venez, ma petite femme, venez, présidez à la fin de notre festin.
Non. « Je veux être seule !» s'écria-t-elle avec une énergie terrible.
« Qu'est-ce que c'est que cette fantaisie-là »«
Dame, je suis femme. »«
Oui, mais moi je suis homme. »«
Mais qu'est-ce que cela fait ? En France, ce n'est pas à moi à obéir. » »«
Je suis américain, » dit Argot en fronçant le sourcil. « Ma belle amie, pourriez-vous m'expliquer par quelle aventure votre robe est noire comme du charbon ?»«
C'est... le vent qui a soufflé des cendres sur moi.
Jeune fille, vous êtes une petite fleur, dit le pirate en lui lançant un regard foudroyant.
Tremblez de soulever l'orage qui brise les chaînes.
Et il se mit à regarder par la chambre avec une curiosité frénétique.
Et que me vouliez-vous ?
Reprit Mélanie avec un doux accent de voix qui couvrait toute la crainte horrible qui l'envahissait. Voyant Argot contempler le lit avec une attention terrible, elle courut à lui, le prit par l'épaule, le força de la regarder, et, lui lançant un regard enchanteur,
« Que me vouliez-vous donc ?»«
Que vous descendiez dans la salle à manger. »«
J'y descendrai, monsieur Maxandy, »
répondit-elle avec un air de soumission qui désarma le pirate. Il s'approcha, la saisit.
« Monsieur !» s'écria-t-elle. « Je ne suis pas encore votre femme !»
Et un effroi mortel la glaça en voyant le lit se mouvoir, ce qui indiquait que Joseph ne pouvait contenir son indignation en supposant probablement au pirate des intentions qu'il n'avait pas.
« Suivez-moi, mon ange !» lui dit Argot.
« Oh, monsieur, non !» répondit-elle avec un geste rempli de grâce et d'expression.
« Je ne suis pas habillée, je suis couverte de cendres. Il faut au moins que je passe une robe. Dans 10 minutes. »
« C'est bien le moins qu'en obéissant à vos ordres, je sois maîtresse de ce que l'on n'a contesté à aucune femme, de ma toilette. »«
Eh bien, je vous attendrai, » dit le soupçonneux Forban en s'asseyant.
« Et puis-je m'habiller devant vous ? Allez-vous-en, je vais vous rejoindre. »«
Petite sirène !» s'écria le corsaire en ouvrant la porte. « Je me fie en votre parole, et je vais vous annoncer. »«
Oui, » dit-elle avec un gracieux sourire, « je vous suis. »
Elle écouta le bruit des pas du pirate, et lorsqu'elle ne les entendit plus, elle se hasarda dans la galerie et s'en fut jusque dans l'escalier. Elle entendit la voix d'Argot mêlée à celle des autres convives, alors elle accourut avec la légèreté d'une biche dans son appartement. Le vicaire était déjà hors de sa retraite.
« Mélanie, j'étouffais de rage !»«
Et moi de frayeur ! Allons, mon ami, comment vas-tu sortir de cette caverne ?»«
Avant d'en sortir, Mélanie, convenons d'une chose nécessaire pour ta délivrance, à laquelle je viens de penser. Toutes les fois que 2 heures dans la journée ou 10 heures dans la nuit sonneront, trouve-toi dans ta chambre en te cachant dans l'embrasure de ta croisée. Lorsqu'on tirera un coup de fusil, s'il y a une balle qui siffle dans ta chambre, elle te dira que l'instant d'après, il se passera quelque chose d'intéressant pour toi. Soit une pierre lancée avec une fronde qui sera enveloppée d'une lettre, soit une flèche qui t'apportera un billet. À compter de demain, ma bien-aimée, tiens-toi sur tes gardes. Que nous ne te blessions pas. Adieu. Reçois mon baiser de départ.
« Joseph, nous reverrons-nous »«
Comment, Mélanie, tu en doutes ? Avant 3 jours, je veux que nous soyons sur la route de Paris. »«
Allons, je le crois, puisque tu le dis. Adieu !»
et s'élançant dans les bras l'un de l'autre, ils se donnèrent un dernier baiser. Mélanie s'avança la première dans la galerie, et Joseph suivit de loin, prêt à se réfugier dans la chambre de Mélanie au premier bruit. Ils parvinrent jusque dans l'escalier. Ils descendirent dans le vestibule, et comme le vicaire se glissait dans la cour pour regagner son sac de charbon, Argot ouvrit la porte de la salle à manger. « Comment, mademoiselle? Vous dites que vous voulez vous habiller ?»«
Est-ce que je ne le suis pas ?» répondit-elle en pâlissant.
Argot regardait dans la cour.
« Qu'est-ce que c'est que cette charrette ? » demanda-t-il.
« Monseigneur, dit Jacques Cachel, vous manquiez de charbon et je n'ai pas pu venir plus tôt. Monsieur Lénagile, vous ne voulez pas mon reste ?»«
Allons, dit Argot, débarrassez le perron de ses sacs. Un jour où j'ai du monde !»
Cachel tâta ses sacs pour savoir si le vicaire était revenu, et voyant qu'effectivement il remplissait son sac, il en jeta deux ou trois devant Argot. Les sacs retentirent sur la voiture, puis il prit le vicaire et le posa doucement en saisissant le moment où le pirate, se retournant vers Mélanie, lui dit
« Eh bien, cette robe ?
Comment vouliez-vous que je la misse ? Je n'avais personne.
Vous le saviez cependant, petite rusée, lorsque vous m'avez renvoyée. »
En cet instant, Jacques Cachel, regardant Mélanie, dit
« Vous n'avez plus rien à craindre. »
« À qui parles-tu ? »
« Vous n'avez plus rien à craindre, monsieur Lénagile, »
continua le charbonnier sans répondre à Argot, « car vous êtes fourni de charbon pour au moins 15 jours. À demain. » Cachel s'en alla en faisant claquer son fouet et galoper ses chevaux. « Entrez, mademoiselle, » dit monsieur Maxandy, et prenant la main de Mélanie, il ouvrit la porte en s'écriant « Voici madame Maxandy. » Un murmure d'étonnement s'éleva à l'aspect de la belle Mélanie. Que la présence de son amant et les dangers qu'il venait de courir avaient décoré des plus ravissantes couleurs.
« Madame Maxandy ? » dit-elle avec énergie.
« Jamais, messieurs, un mariage veut un consentement. Et la hache sur la tête, je ne dirai pas oui. »«
Bravo, » dit Vernier, « voilà de l'énergie. Eh bien, monsieur le comte ?»
« Monsieur le comte !» s'écria Mélanie. « Celui qui prend le nom de Maxandy n'est autre qu'un pirate, nommé Argot. »«
Tais-toi, jeune fille !» s'écria Argot en colère. « Tais-toi, si tu ajoutes !»
Il la regarda en lui jetant un tel éclair que Mélanie devint muette un moment.
« Vous avez vu quelqu'un, mademoiselle ? » dit-il en se radoucissant.
« Je ne m'en cache pas, je viens de voir à l'instant celui que j'aime, et avant 2 jours je serai arrachée de ces lieux. »«
Diable, mais cela se gâte !» s'écria monsieur Gargarou.
« Vous ne me disiez pas cela, monsieur le comte ?»«
Tais-toi, imbécile !» lui répliqua le forban.
« Bravo, » dit Vernier, « il n'épousera plus. »«
Jeune fille, » dit Argot à voix basse, « tu as élevé la tempête, et tu y périras. »
« J'avoue, » dit-elle avec un naïf sourire, « que je mourrai avec chagrin au moment où je viens d'apprendre que je puis épouser Joseph et qu'il n'est pas mon frère. »«
Mais où l'avez-vous vu ? » demanda Argot étonné.
« À l'instant, » dit-elle.
« Où était-il ? » ?»«
Devant vous. »
Maxandy lâcha un effroyable juron et lança des regards terribles sur l'assemblée.
« Votre amant est dans le pays ?» reprit-il d'un air sombre qui annonçait la mort.
« Vous m'épouserez !»«
Jamais !» s'écria-t-elle. « Et s'il y a ici quelqu'un qui ait quelque pouvoir, quelque autorité, je l'adjure de me retirer d'ici, de faire son devoir, car je suis enlevée de force. »
Mélanie déployait une énergie sublime, et Argot, craignant que le maire ne conçût de graves soupçons malgré son ivresse, fit venir des laquais, et l'on ramena Mélanie, de force, dans son appartement.
Chapitre 27. Argot, furieux, ordonna de faire les recherches les plus actives. Elles lui prouvèrent que personne n'avait pu s'introduire au château sans être vu. Cependant, comme il lui était impossible de douter que Mélanie eût revu Joseph,
puisqu'elle avait appris le secret de sa vie passée qu'il avait tant d'intérêt à tenir caché, il tomba dans une étrange perplexité. Mais il n'était pas homme à y rester longtemps. L'obscurité qui régnait sur cette étrange entrevue, l'énergie déployée par Mélanie, les soupçons que les paroles de la jeune fille devaient exciter dans l'esprit de M. Gargarou, tout décida le pirate à frapper un grand coup. Il y réfléchit toute la nuit, et dès le matin, il résolut de mettre son dessein à exécution pour se défaire des recherches et de la présence du dangereux ennemi qu'il avait en la présence de l'amant de Mélanie. Ce projet était de partir sur le champ pour le village de Durantal, situé au milieu des montagnes du Dauphiné. Charmante solitude, où il possédait un château et une terre considérable qu'il n'avait pas encore visitée. Il ordonna tout pour son départ, il fit demander des chevaux à M. Gargarou et l'invita à déjeuner, afin de savoir quel effet avait produit sur lui la scène de la veille, et en cas de soupçon, décider comment il les effacerait de l'esprit du maître de poste. Ces préparatifs eurent lieu le plus secrètement possible, afin que personne ne pût se douter du projet de Maxindé. Cependant, comme on ne se défiait point de Jacques Cachel, et que Jacques Cachel était resté toute la nuit au bord de la forêt, il sut, dès le matin, que le pirate allait faire un grand voyage, car le cuisinier lui paya son charbon et refusa son bois en lui disant qu'il allait en Dauphiné. Sur cette nouvelle, Jacques enfourcha un de ses chevaux, il accourut à bribes abattues à sa chaumière, et faisant monter sur le champ le vicaire sur un autre cheval, il lui raconta, en revenant vers le château, le nouveau dessein du matelot. Joseph embrassa Cachel pour son dévouement, et il se mit à réfléchir sur ce qu'il y avait à faire dans une semblable conjoncture. Inspiré par la nécessité, le vicaire eut bien vite formé son plan de défense. « Cachel, lui dit-il, connais-tu beaucoup de bûcherons dans cette forêt et pourrais-tu en rassembler un bon nombre dans peu de temps ?»« En une heure, j'en aurai 10 ou 12. Que faut-il faire ?»« Il faut, mon ami, les poster au commencement de la forêt en les armant jusqu'aux dents. » Il faut de plus barrer le chemin avec ta charrette, et je viendrai te rejoindre dans peu pour te donner les dernières instructions. Mélanie est à nous. » Cachel s'élança dans la forêt et Joseph au village de Vence. En approchant de l'auberge de M. Gargarou, il cacha son visage et se mit à épier avec soin quelles étaient les personnes qui se trouvaient dans la salle. Comme il regardait, le maître de poste et Vernier sortirent. Effrayé, le vicaire s'échappa au grand galop en courant vers Septinan. Quand il fut parvenu à une certaine distance, il se retourna, et voyant Gargarou et le lieutenant se diriger vers le château, il revint à petits pas vers l'auberge du grand Hiver. Il y entra hardiment, après avoir attaché la bride de son cheval à l'un des anneaux de fer qui garnissaient le mur. L'hôtesse était seule. Aussitôt qu'elle aperçut Joseph, elle lui fit signe de marcher avec précaution, et elle l'emmena dans une chambre haute où Madame, Amel et Finette se trouvaient. « Madame, s'écria le vicaire, Mélanie est à moi, pour peu que vous vouliez me seconder. Que faut-il faire ? Maxindé n'a-t-il pas demandé des chevaux ? Oui. Avez-vous un postillon sur le dévouement duquel on puisse compter ? Oui. Un joli garçon qui fait pour moi tout ce que je veux. Eh bien, madame, si la pensée de sauver une infortunée des mains d'un scélérat effronté vous touche, son sort est entre vos mains. Donnez ce postillon à Maxindé et qu'il lui amène des chevaux ombrageux. Tenez, voilà 100 louis. Et le vicaire jeta sur la table un rouleau de Napoléon. Voilà 2000 francs pour lui s'il veut consentir à suivre mes ordres.
Et de quoi s'agit-il ?
Demandèrent à la fois Finette, Madame Amel et la maîtresse de poste. « Il s'agirait, continua le vicaire, de faire prendre le mort aux dents à ses chevaux lorsqu'il sortira du château, de conduire M. Maxindé par la forêt, là qu'il ne s'épouvante en rien de ce qu'il pourra arriver lorsqu'il se trouvera arrêté par 2 charrettes.
« N'est-ce que cela ? »
dit la maîtresse de poste. « Mon jeune postillon vous servira à merveille, et seulement pour l'amour de moi. »« si cependant il vous plaît de reconnaître ce service, à Dieu ne plaise que je vous empêche de faire du bien à ce brave garçon. »
« Ce n'est pas tout, » reprit le vicaire. « Il faudra que vous, Madame Hamel, et vous, Finette, vous alliez m'attendre à Septinan, que vous fassiez préparer la chaise de poste et que les chevaux restent toujours attelés. Vous nous attendrez. Allez, courez. »
Et pour cela, il ne faut qu'un petit bout de lettre à notre confrère, dit la jolie hôtesse, et je vais l'écrire sur le champ, n'est-ce pas? Catherine, de l'encre.
Pas tant de précipitation, madame. Dites-moi, je vous prie, ne connaîtriez-vous pas dans le village un bon tireur d'arc? Car vous avez sans doute une compagnie de chevaliers, comme a honné le vicomte.
Certainement, et le plus adroit, c'est votre berger, répondit madame Gargaro.
« Maintenant, reprit Joseph, il ne me faut plus qu'un fusil chargé à balles, du papier et de l'encre. »
En une minute, le vicaire eut tout ce qu'il demandait. Il écrivit à Mélanie de suivre Argo en jouant un grand désespoir et de s'effrayer beaucoup lorsque les chevaux prendraient le mort aux dents, afin de ne pas paraître de connivence et ne pas éveiller les soupçons du rusé pirate. Mais qu'à l'entrée de la forêt, 12 hommes apostés s'emparerait du forban et la délivrerait. Ayant tout expliqué, il s'échappa de l'auberge, laissa Madame Hamel ébahie, parce qu'elle ne comprit rien à tout cela, laissa Finette et l'aubergiste qui comprenaient tout, et il courut chez le berger, dans la maison duquel il était né et dont il portait encore le manteau, afin de disposer le reste et prévenir Mélanie.